Nous avons donc passé un riche festival de Cannes asiatique avec de nombreux films, à commencer par l'événement certainement du festival de Cannes qui nous a tous un peu déçus, Mademoiselle de Park Chan-wook.
Déçu.
Elvire, ouais. Peux-tu nous parler donc de ce qui était notre attente? Nous sommes la manière dont tu as perçu ce film à Cannes.
J'ai parlé de ce qui était mon attente, pas forcément l'attente de tout East Asia et de tout spectateur, parce que je crois que Kefren a beaucoup aimé.
Oui.
Donc voilà. On n'avait pas la même attente.
Martin vient de m'envoyer un SMS, il dit qu'il n'est pas d'accord. Donc...
Non mais Martin, il y a des filles à poil, ça lui suffit en fait. Des
filles coréennes.
Coréennes, filles asiatiques à poil, ça lui suffit. Le film de Park Chan-wook, Mademoiselle. Donc, si je résume, c'est une adaptation d'un roman britannique qui se déroule fin 19e.
L'auteur, s'il te plaît.
Oh putain. C'est le roman
Fingersmith.
Fingersmith de Sarah quelque chose.
C'est bien.
Voilà, j'ai pas révisé du tout. Park Chan-wook l'a adapté en fait dans les années 30, pendant la colonisation japonaise. Et donc c'est l'histoire en fait de manipulation entre une servante qui arrive au service donc d'une riche japonaise et qui doit l'escroquer pour un homme qui se fait passer pour le professeur de peinture de la japonaise. Et, bref, les manipulations s'enchaînent. Je dirais pas que c'est un mauvais film, parce que j'ai passé un bon moment, même si je l'ai vu à 8h30 du matin et que c'était un petit peu difficile.
Première projection presse. Hein.
Première projection presse. On est arrivé super tôt, parce que Nicolas disait qu'il y aurait beaucoup de monde, et pas grand monde. On a attendu une demi-heure dans la salle, j'ai eu le temps de me rendormir.
Ah, il s'est dit, nous serions les seuls à attendre le Park Chan-wook.
C'était ça, en fait, ouais. C'est un bon film, la photographie est magnifique, la mise en scène est super bien réussie parce que Park Chan-wook, bah voilà, il a du
le
talent.
Le film a d'ailleurs eu un prix.
Il a eu prix de la direction artistique.
Donc et un prix
technique. Rien à voir avec le palmarès.
C'est un prix technique, en fait, c'est le prix Vulcain. Et il est amplement mérité, parce que je pense que c'était peut-être un peu trop pour le prix de la mise en scène. Ça aurait été osé de lui donner. Mais on vu la gueule du palmarès, on se rend bien compte qu'il n'y a pas eu beaucoup de tentatives en fait. Donc ça m'étonne pas qu'il ait pas reçu le prix de la mise en scène. Techniquement, c'est nickel. C'est parfait. Franchement, c'est superbe. C'est plutôt bien joué. Pour un public coréen, c'est assez osé. Il y a plusieurs scènes de sexe assez explicites. Jérémy est content. Je traduis les onomatopées.
Moi, je l'ai vu après vous et vous m'avez dit, ouais, c'est
une. Non, c'est moi qui disais ça pour rigoler en fait. Et c'était à 2h du matin.
C'est pire que la Ville d'Adèle.
Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit, c'est pareil que la Ville d'Adèle et c'était à 2h du matin.
Il paraît qu'il y a un 69 assez fou quoi.
Il y a un 69 assez fou pour la 69.
En même temps, c'est la 60e édition.
69, c'est la même chose que 69.
Oui, c'est un 69, voilà. Mais on est en anglophone en fait, Gaël.
Mais la représentation du sexe est quand même. Enfin, je pourrais pas dire que c'est très cru, c'est quand même extrêmement esthétisé.
C'est très stylisé.
Et du
fait. Mais je pense aussi que c'est peut-être pour ça que c'est bien. C'est peut-être pour ça aussi que ça passe bien en Corée en fait. C'est que c'est très stylisé. Le public coréen étant assez prude, il vaut mieux que ce soit stylisé comme ça. La vie d'Adèle passerait pas là-bas. Donc c'est magnifique, c'est superbe, mais par contre, où est la folie de Park Chan-wook? Nulle part. Elle est un petit peu... Il y a quelques touches.
Il y a quelques doigts
coupés quand même. Oui, mais on a l'impression qu'à ce moment-là,
Park Chan-wook... C'est la scène la plus folle du film.
Attendez, laissez-moi parler, s'il vous plaît. On a l'impression que Park Chan-wook s'est dit à ce moment-là... Ah oui, merde, je m'appelle Park Chan-wook, j'ai fait des films un peu barrés, il faut que je mette au moins des doigts coupés. Ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe.
Les personnes qui mangent des poulpes vivants.
Non. Il y a un poulpe.
Il y a un poulpe, mais bon. Il y a pas
bien crado.
C'est comme les colons chez John Woo.
Mais on a l'impression que c'est plus des rajouts sur le film que. Ces scènes ne seraient pas présentes, ça ne changerait pas grand chose au film. Et voilà, c'est beau, il n'y a pas grand chose à dire, c'est juste un petit peu décevant parce qu'on ne prend pas notre pied. Quoi.
Au contraire, Kéfren, je crois que t'as aimé le poulpe. Hein.
Oui, mais moi j'ai beaucoup aimé le film en général parce que Park Chan-wook justement épouse enfin le côté voyeur et érotique de son cinéma qui se retenait un peu dans Stalker, parce que dans Stalker il y a une fameuse scène justement de piano et tout le film est à l'image de cette scène de piano dans Stalker justement où il y a une espèce d'érotisme latent inhérent et c'est pas... Alors si le film se passe dans les années 30 et au Japon, parce qu'il fait beaucoup référence à justement la culture érotique japonaise des années 30 et pour les gens qui s'y connaissent un peu et qui lisent les romans de Rampo et Dogawa ou des choses comme ça, ou les romans érotiques japonais des années 30, Park Chan-wook est vachement dans leur délire ou des choses comme ça.
Il y a quand même une condamnation, le personnage qui lit des...
Il condamne quand même l'espèce de voyeurisme qu'il peut avoir.
Et il est très loin de la folie de tout ce que peut être les Roguro par rapport au Japon
dans sa mise en scène. C'est super bien maîtrisé. C'est magnifique, mais il n'y a pas de folie.
Il n'y a pas de folie. Donc, pour vous avez l'habitude de voir qu'on élève des petites filles à l'heure des livres érotiques à des vieux messieurs.
Mais la mise en scène, c'est pas dans l'érotisme, il suggère à chaque fois, et c'est à vous d'imaginer. Il suggère pas des masses non plus, il monte beaucoup quand même, faut pas déconner.
Mais c'est dans le film, mais après, on sait pas ce qui se passe avec les filles, ni qu'est-ce qu'elles racontent, ni ce qui se passe vraiment. Et par exemple, la scène du poulpe, on doit attendre jusqu'à la fin du film pour savoir s'il y a.
Donc il y a un poulpe.
Il y a quand même, voilà. Non mais il y a quand même des doigts tranchés et un poulpe.
Et justement, par Chan-wook remplace la violence de son cinéma par justement l'omniprésence de l'érotisme et des symboles.
C'est un truc de vieux pour moi là. Il a vieilli, c'est tout.
Mais non, justement, c'est qu'il épouse une partie de son cinéma qu'avant il remplaçait par les éclats de violence, etc.
Le problème en fait, c'est que son film, tout beau esthétiquement, une direction esthétique absolument phénoménale, il repose vraiment beaucoup sur les mécanismes de son scénario. Et le problème, c'est qu'on les voit venir à 10 km.
Je ne suis pas sûr que ce soit un problème.
Bah pour moi, si, parce qu'il se base beaucoup dessus, quand même, pour retenir l'attention de son public. Si on connaît un peu le cinéma de Park Chan-wook, les thèmes qui reviennent sans arrêt sont dans son cinéma, tu sais de quelle manière le film va aller dès... Tu sais quelle va être la troisième partie, parce que c'est divisé en trois parties. Tu sais exactement comment ça va aller. Et au final, tu attends... Tu passes un moment parce que c'est quand même beau, il y a des magnifiques scènes, mais
moi, j'ai pas été
passionnant quoi.
J'ai pas été frustrée en fait par ce côté-là, mais j'ai été frustrée tout simplement parce que j'ai vu un film un peu plat, je dirais pas plat en termes de mise en scène, comme je le répète, on le dit tous que c'est magnifique, mais ça manque d'âme en fait. C'est trop parfait, c'est la première fois que je dis ça d'un film, parce que dire d'un film qu'il est trop parfait, c'est un peu con quand même, on attend tous le film parfait, mais pour moi, il n'y a pas le petit grain, le petit grain de génie en fait qu'on sentait dans ses anciens films. C'est juste magnifique, mais on s'emmerde un peu quand même.
Gaël.
Non, j'ai pas vu le film moi.
Mais par contre, je crois que tu as vu le Nanjing, qui était l'autre film coréen.
On a pas fini sur la transition.
En même temps, on dit tous la même chose là.
Dans deux minutes, et Kefren m'a complètement foiré ma transition. Mais vas-y, Kefren.
Vas-y.
La fin du film, quand même, montre qu'il y a toujours le côté irrévérencieux de Nanjing. La manière dont il finit le film.
Pas d'accord, c'est la pire scène du film pour moi. Elle est totalement inutile, elle a rien à foutre.
Attends.
On parle de la même, j'imagine.
Mais oui,
les boules de geisha, justement. C'est la scène de trop, on a l'impression qu'il a mis ça pour choquer la ménagère de moins de 50 ans.
Mais non, mais c'est à l'image du film.
On va éviter de spoiler, mais effectivement, j'ai trouvé cette scène un peu incongrue.
Pareil.
Et elle, parce qu'elle nie tout le discours du film.
Mais quel discours? Alors, c'est quoi le discours du film pour vous?
Il y a une condamnation quand même de la perversité masculine. Qui est dans un espèce de regard pervers, qui est aussi le regard du spectateur masculin, qui regarde ces jeunes femmes qui sont en train de badifoler entre elles. Et finalement, la transgression n'est pas véritablement une transgression, c'est juste un regard qui est extrêmement orienté par ce regard masculin, par ce que vous voulez voir. Et finalement, il y a une condamnation du film dans cette scène qui est une espèce d'exutoire, où là je spoil un peu, donc passez deux minutes plus tard si vous voulez voir le film. Les jeunes femmes déchirent les ouvrages érotiques japonais. Et à la fin, au final, il nous montre exactement ce qu'on voit dans ces ouvrages qu'il a condamné précédemment comme étant un regard uniquement masculin sur la sexualité féminine. Et là, je me dis, mais pourquoi il fait ça? Alors qu'il a passé son film à contredire ça, à élaborer un discours en mettant un peu en abîme le regard masculin sur cette sexualité, pourquoi à la fin il offre au spectateur mâle ce qu'il veut voir.
Les deux premières parties du film, c'est justement la perversion du regard féminin. C'est les deux premières parties du film, c'est le regard de la femme.
Fond dans le spoil,
c'est pas bien.
C'est le regard de chaque femme l'une sur l'autre, et les deux sont.
Je pense que ça va attirer tout le monde. Hein, on parle de.
En même temps, on parle de 60 ans.
Justement, surtout la première qui vient pour coincer l'autre.
Donner envie.
C'est elle justement qui a un regard de voyeur et un regard orienté, et de même lorsqu'on a la partie de l'autre femme.
Non, on a une histoire d'amour féminine quand même. Qui domine
oui,
le film.
Elle est quand même prise entre son histoire d'amour et le
à la fin, on a un regard masculin sur cette histoire d'amour. On nous dit ce qui domine, c'est le regard à elle. Et on parle de la dernière scène.
Pour moi, la
dernière scène. La dernière scène, elles sont libérées, c'est bon. Elles ont vaincu.
Elles sont sur la caméra de Park Chung-wook et elles sont sur le regard masculin qui regarde le film.
Il y a un ouvrage érotique japonais, c'est ça?
Beaucoup d'ouvrages érotiques japonais.
Voilà. Mais enfin, avec des films. La relation entre la Corée et le Japon, enfin, est-ce que le fait de déchirer, enfin, j'ai pas vu le film,
peut-être, oui.
Mais est-ce que le fait de déchirer, enfin,
c'est pas le thème principal du film, ça c'est loin derrière.
D'accord.
Contrairement au Naojing, voilà. Effectivement, nous allons passer.
Est-ce que je peux rajouter une parenthèse? Je rajoute juste une parenthèse sur la conférence de presse de Park Chan-wook qui explique. Qu'est-ce qui se passe?
Alors, un droit de réponse à Kefren pour finir, et ensuite The Strangers.
Voilà.
Et Elvire, vas-y.
Qui explique pourquoi il a situé ce film dans les années 30, au contraire du livre qui se déroule à la fin du 19e. Pour deux raisons. La principale, c'est qu'il voulait une époque où pouvaient encore exister les différentes castes, donc avoir des servants et des nobles, et avoir des institutions psychiatriques. Mm-hmm. Je spoil à fond, c'est pas grave. Deuxième raison, les années 30, il y a un côté un peu, côté années folles, que ce soit en Europe ou en Asie, qui permettait des anachronismes stylistiques qui ne choquent pas. Donc, ça se situe dans les années 30, dans une période de colonisation japonaise, c'est plus une raison stylistique et de scénario, c'est plus pour une raison stylistique et de scénario qu'il a utilisé ces années-là. Plus que pour dénoncer, pas pour le coup de
déchirer.
Voilà, mais je te donne la réponse en tout cas du réalisateur. Il se peut qu'il y a un sous-texte forcément, mais il n'est pas. Au contraire du Naojin.
Voilà.
On revient dans... non, mais il y a le droit de réponse qui est
fait. On va en reparler maintenant. Chez Naojin, il y a un vrai discours sur le rapport au Japon, alors que chez Park Chung-wook, pour moi, il n'y a pas du tout de sous-texte.
Je me posais la question, c'est un grand point d'interrogation. Non,
Kefren, tu as un droit de réponse d'une minute et ensuite on part sur
Namjin. Justement, dans la dernière partie, elle transcende justement le regard masculin auquel tu parles, vu que c'est explicitement dit dans le film, c'est que lorsqu'on les recherche, il dit vous empêcherez deux femmes de quitter le pays. Et ça dit il y a deux femmes qui quittent, et à la fin, si elles arrivent à s'en sortir, justement, c'est parce que l'une d'entre elles n'est plus une femme dans le moment où elle quitte. Et à partir de là, elles sont libérées de toutes les contraintes, et c'est pour ça que...
Elle est déguisée en homme.
D'accord. Non, mais je ne comprends toujours pas la phrase pour autant.
Non, mais elles le sont plus dans la dichotomie du regard masculin et du regard féminin, vu que l'une d'entre elles a transcendé le genre...
Non, mais je suis d'accord, je suis d'accord avec ça, mais ce n'est pas la dernière scène. Ça, c'est avant la dernière scène.
Mais après, elles se retrouvent dans un ailleurs, dans un espèce d'autre. Même la lumière devient dans un espèce de truc autre, où la lumière est bizarre, avec un ciel bizarre. Elles sont plus dans la réalité, elles sont dans leur monde à elles, et c'est pour ça qu'ils...
Non, elles sont dans leur monde à nous.
Elles sont
dans le monde de Park Chung-wook.
Non, elles sont dans leur monde de leur fantasme à elles, qu'elles se permettent ça. Et parce que qu'elles sont libérées, elles peuvent épouser les fantasmes, parce qu'avant elles rejetaient justement parce qu'elles sont libérées.
Non.
Alors c'est bien.
Là, je crois que...
Non. On n'arrivera pas à se mettre d'accord.
C'est une question pour Kefren. Par rapport à toute sa filmographie, est-ce que ce film est une date?
Ce film est une date. En termes de film mineur.
Si tu vois ses films précédents, oui, on va dire que c'est un retour quand même.
C'est un retour en Corée.
Une discussion à la fois.
Mademoiselle, pour moi, signe son grand retour en Corée.
content de Park Chan-wook.
Non, ce que, juste un dernier point. Ce qu'on, conclure, peut, ce qu'on peut dire,
c'est que Gaël a très envie de parler de The Strangers de Naomi.
On en a parlé, on n'a pas parlé, mais donc le film est construit en plusieurs parties.
On t'entend très bien.
On va dire que l'intérêt principal, on va dire la force, une des forces du film, c'est la manière dont, c'est pas quelque chose d'original, mais c'est la manière dont Park Chan-wook gère les points de vue, le changement des points de vue. C'est-à-dire qu'on revoit pendant tout le film, en trois parties, on revoit des scènes sous un autre point de vue, en fait, qui va donner une signification complètement nouvelle à l'histoire et à l'évolution des personnages. Et ce qui est intéressant, c'est que là où il y a déjà eu des films où il y a plusieurs parties avec un point de vue différent, machin, tout ça. Voilà, Rashomon, qui est la base. Mais là, je trouve qu'il y a quand même une habileté dans le montage et dans la gestion des ellipses. C'est-à-dire qu'il ne va pas remontrer toutes les scènes. Il va choisir les scènes qu'il va remontrer à tel moment, même pas dans le même ordre parfois. Oui. Et il y a un vrai travail au niveau de la chronologie des scènes qui sont remontrées d'un point de vue différent, en fait. Et ce qui donne l'intérêt aussi de.
Moi, je suis vraiment d'accord avec toutes ces qualités du film. Et vraiment,
c'est
pour ressortir quelque chose de positif.
C'est cette conclusion.
Il n'y a pas que ça qui est important. C'est un très bon réalisateur. On est tous d'accord là-dessus. Non. C'est un très très bon réalisateur. Il n'y a pas de souci.
Le mot de la fin, il n'y a pas de problème du tout.
Non, mais il n'y a jamais de problème avec les frères, il y en a trop.
Nous allons donc passer à l'autre
et là,
film
ça va être mieux, là.
Coréen de la sélection officielle, avec un troisième dont on va parler un tout petit peu plus tard, qui celui-ci était hors compétition. Vous l'avez compris, c'est The Strangers de Naum Jing. Et Gaël, je crois que tu l'as vu.
Oui.
Attends. Quand est-ce que je l'ai vu déjà?
Quel film?
Après quelle bière?
Non, The Strangers, voilà. Moi, je propose que les prochains podcasts avec Gaël Martin en guest, il faut que ça soit filmé.
C'est vrai que c'est.
Après, il y a un problème de place aussi, comme.
Non, mais
non, mais tu ne filmes que Gaël.
Moi, évidemment, avant Cannes, j'avais sélectionné, j'avais coché tous les films coréens, asiatiques que je voulais voir et tout ça. Finalement, j'en avais vu peu. Mais j'étais très content de voir The Strangers. Vraiment, c'est hors compétition et je me dis, ah merde, quand même, j'aurais bien voulu voir, effectivement, en compétition officielle. Et j'ai vu le film.
Ah merde!
Ah, t'es
pas aimé!
Je crois qu'il a pas très. Ah merde, t'as pas aimé! Et là, je me suis dit, mince, non, ça va pas du tout.
Ah, sérieux?
Il a vu le film.
Ouais, clairement pas. Enfin,
je demanderais simplement pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, toutes celles, ne spoiliez pas.
Ah, mais je
veux rien spoiler. Prenez ça, vous le mettez dans le crâne et vous ne l'oubliez jamais.
Parce que moi, la dernière scène.
Non, mais oui, non. Autant le Park Chan-wook qu'on pouvait spoiler sans que ça gêne. Pas, mais le Naum Jin, on va pas spoiler.
Parce qu'il est nul et que les gens n'y vont pas.
Non, c'est pas ça, c'est que ça gêne. Non, mais c'est pas le but de. On s'en fout. Mais le Naum Jin, non, c'est bon, on spoil pas.
D'accord. C'est juste que.
C'est difficile, mais on
se fait pas. Je trouve que le sujet est assez passionnant.
Alors, est-ce que tu peux nous resituer un peu le début du film, le sujet du film?
Je suis très mauvais, pour. Ah oui, si tu veux. Ouais.
Ça se déroule dans un petit village de Corée
qui
s'appelle Gongsang.
Titre original du film.
Nicolas, si tu veux faire le résumé,
pour ma place.
Incroyable ça.
Et en fait, donc on suit un policier avec sa petite famille qui découvre en fait des meurtres très macabres dans ce petit village.
Spectaculaire.
Et on sait pas trop ce qui se passe et en parallèle, en fait, il y a des gens qui commencent à être infectés de pustules.
Et à chaque fois, il y a des personnes qui sont présentes lors des.
Je spoil pas. Sinon, on va pas s'en sortir.
Slow clap.
Des gens qui sont.
Il y a des victimes qui sont encore vivantes, voilà.
Oui. Et qui sont infectées de pustules. Donc, c'est en parallèle. Et donc, le village désigne la cible toute trouvée. Le japonais qui a débarqué dans le village il n'y a pas longtemps, qu'on connaît très peu, qui passe son temps à pêcher, et donc c'est forcément lui le coupable.
Mais c'est parce qu'il est surtout japonais.
Bah oui, il est forcément japonais. Il est coupable parce qu'il est japonais. Et donc interprété par un acteur japonais, donc on est vraiment à fond dans le truc.
Ah ouais.
Il est japonais, il parle japonais, il parle pas coréen, c'est le bordel. Et donc voilà le pitch de départ.
C'est
le policier essaie de comprendre ce qui se passe dans ce village en fait où tout part en live, où il y a des meurtres, où il y a des gens infectés, où il y a un japonais qui traîne. Et après, si j'en dévoile plus, je spoil.
Ça donne envie, je crois.
Je pense tout de suite à Memories of Murder.
Voilà. Oui, parce qu'il y a un côté Memories of Murder.
Totalement. Mais,
tout en fait, la première partie, c'est très Memories of Murder. Ouais. Après, ça part vraiment dans une direction différente, mais je ne spoil pas.
Et la première partie est plutôt légère, en fait, malgré les meurtres. Il arrive à. Nangjin arrive à allier les deux, en fait.
Oui, il y a le même humour.
Il y a des scènes.
Si, il y a le même humour.
Il y a des scènes super drôles. Il y a des transitions malades.
C'est pas du tout le même humour. C'est un décalage. C'est juste que là, c'est pour moi ce qui pose problème. C'est que c'est. Il n'y a pas la même finesse d'humour, quoi. C'est quand même ultra lourdin, quoi.
Ah bah c'est coréen, quoi.
Non, mais c'est coréen, mais c'est pas très, super fin.
C'est pas très fin.
Dans les commissariats, c'était dans le commissariat, Memories of Murder, c'est super lourd.
Non, t'as plusieurs niveaux.
Mais c'est vachement bien amené, quoi.
C'est bien amené aussi.
Gaël, pour le coup, c'est l'humour qui t'a gêné dans le film.
Non, en fait, c'est pas l'humour qui m'a gêné dans le film, c'est.
Le mélange des gens.
Non, mais pas spoiler, ça vient de pas raconter.
Beaucoup de gens en fait, ils sont mélangés.
Mais effectivement, le côté humour, effectivement, complètement. Comment ça va des burlesque, enfin un peu, enfin c'est ils en font des tonnes grotesques, voilà, grotesques.
Ah, c'est coréen.
Évidemment. On va parler de Malout dans quelques. c'est fascinant, grotesque.
Mais oui, je peux comprendre que ça. Mais au bout d'un moment.
Mais ça dure une première partie.
C'est juste que l'alliance du grotesque et de l'horreur ne fonctionne pas en fait pour moi.
Pour moi, ça fonctionne vachement bien, quoi.
Vous m'avez convaincu.
C'est ça. Les arguments en étant.
Mais laisse-nous développer.
Nicolas.
Donc en fait, ce que je trouve, ce film c'est un cauchemar, c'est un vrai cauchemar. C'est-à-dire qu'on est à l'image de ce personnage principal de flic un peu bedonnant, un peu con, un peu lâche, un peu tout.
Bah,
un flic coréen. Ouais. Exactement.
De base.
Et on suit
les Allemands, les Coréens, les Japonais.
On suit les événements assez horribles quand même du point de vue de ce flic coréen. Et donc lui, forcément, comme il est largué. Comme il est largué depuis la première minute du film jusqu'à la fin, quasiment, jusqu'à la fin, il est largué et complètement en décalage avec ce qui se passe. C'est ça qui donne la distanciation, en fait, un peu grotesque, par rapport à ce qui se passe, qui est vraiment franchement horrible. Et s'il n'y avait pas déjà cette distanciation, ce serait insoutenable, en fait, ce film. Parce que
ça dure 2h36.
Ça dure 2h36, et ça va à fond dans l'horreur. C'est-à-dire que c'est vraiment une espèce d'escalade dans l'horreur du début à la fin. Alors, sans spoiler... Ce qui est intéressant, c'est que...
Désolé d'avoir été un peu
alors,
Ce
qui est intéressant, c'est que...
On ne va pas spoiler sur aucun film, d'ailleurs. Avant de parler des films qui sont en salle actuellement, sur les films de Cannes, on va éviter...
Ça ne se rend pas bien, cette obsession du spoiler. On s'en fout. Sans spoiler...
Non, mais pour celui-là, c'est important.
Celui-là, quand même...
Non, mais pour celui-là, c'est important, pour le nom de... Vas-y, Nico.
Et on fera un débat sur le spoiler en fin de podcast.
Nico est en train de péter un câble.
Je suis d'accord avec toi,
Donc, Nangjin va en fait va vers une direction qu'il n'a jamais foncièrement abordée dans ses précédents films, et c'est ça ce qui donne un peu l'intérêt du film.
C'est une direction
fantastique, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on ne sait pas pendant tout le film si ce qui se passe c'est entièrement fantastique ou s'il y a quelque chose d'autre. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que toutes les hypothèses.
Il y a quelque chose d'autre là ou pas?
Mais c'est le concept du fantastique, Jérémy. C'est le concept du fantastique. Tu ne sauras jamais jusqu'à la fin si c'est.
Et
l'horreur, franchement. Voilà, mais.
Déjà.
Voilà. Sans en dire plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que toutes les théories sont élaborées. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, toutes les théories sont élaborées par rapport à ce qui se passe. Et aucune n'est foncièrement. Enfin.
Donc à la fin, il n'y a pas de résolution.
Si, il y a une résolution, mais les autres ne sont pas écartés non plus. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une vraie fin, mais les autres n'ont pas été... Ça peut être tout en même temps, en fait. C'est ça qui est intéressant.
Arrêtez de nous pignoler, c'est juste du fantastique, en fait.
Et je rajouterais effectivement que le film, dans une veine comique pendant une heure, va vers autre chose. À partir d'une heure sur.
Mais ça n'écarte pas le côté gros,
ça fait penser à Dipan, en fait, c'est simple.
Ce que je voulais dire, c'est que ça se concentre aussi sur une relation entre un père et son fils.
Voilà. Non, sa fille. C'est mieux sa fille, en fait.
Voilà, pendant une grande partie, et que là, le dernier plan est assez bouleversant par rapport.
Personne t'écoute, c'est une catastrophe.
Mais
ce
si
podcast,
on l'écoute, évidemment qu'on l'écoute. Non,
Samir, t'es super dispersé là.
Non, non, je suis pas dispersé, mais.
Samir, si t'as des questions à poser, vas-y.
Non, je disais que c'était passionnant parce que la première chose qu'il avait dit, c'était le système de. Enfin, l'idée de cauchemar, et donc je commence un peu à imaginer pas mal de choses par rapport à ce. Déjà, ce film, quand on voit la bande-annonce et qu'on sait ce qu'il a fait. C'est intéressant, c'est intriguant, très intriguant.
Déjà, il y a l'idée de cauchemar hein, même à l'intérieur même du film. C'est-à-dire que dès le départ, le personnage principal fait des cauchemars. Il a des visions, on ne sait pas si c'est ce qui se passe est réel ou pas. Déjà, donc, c'est déjà une espèce de flou comme ça entre réalité et.
Mais c'est présent dans le précédent film, pour moi, n'était pas très comique.
The Chaser, le personnage de
The Murderer,
principal de The Chaser, même The Murderer, il y a des
moments il y a toujours le grotesque.
Les flics sont
d'ailleurs,
toujours
j'ai une question.
Ouais, c'est un peu comme les flics chez Luc Besson en fait. Mais
c'est la même chose. Là, c'est vraiment le comique est clairement assumé là.
Justin, tu as une question?
Oui, j'ai une question parce que j'aime beaucoup ces deux premiers films, mais j'avais un problème avec l'espèce. Bon, c'est typiquement coréen, mais lui encore plus que les autres, j'ai l'impression, l'espèce d'emphase mélodramatique, sanglante, qui gâche un petit peu les deux premiers. C'était des excellents films, mais quand on arrive sur le final, il y a une espèce de d'outrance sanguignolante et de mélodrame qui fait qu'on décroche quand même. Alors que j'ai
Mais tu décroches pas.
C'est trop. Ah, mais ça peut être trop.
L'a fait pour les deux premiers.
Tu vas adorer. À ce moment-là, il ne filme plus les intentions, mais il filme le scénario, ce qui est différent. Il ne s'évade plus du scénario. Il ne prend plus de liberté avec le scénario. C'est ça qu'il y a, je pense, il y a ces moments un peu.
Mais disons qu'on revient au personnage. Vas-y, je te laisse. Juste le personnage.
Vas-y.
Le personnage de la fille, donc de ce flic, je pense qu'il y a rarement un film va aussi loin avec un personnage d'enfant, quoi. Enfin, j'ai rarement vu ça.
Il y a vraiment des scènes.
Ça poursuit dans la veine.
Assez chelou. Ouais.
Il y a des scènes, mais complètement dingues, où t'en apnées pendant 3 minutes, en fait.
Encore plus loin que le film de Rossini, avec Allemagne Année Zéro, on voit le gosse qui se suicide, quoi, qui se jette.
Tu veux qu'on spoil ou tu veux pas qu'on spoil? Parce que là, tu nous sors du Rossini, mais on va te spoiler.
Il suicide alors ou pas?
C'est différent.
Je sens Nico, là, il est à deux doigts.
On va le faire craquer, il va spoiler un jour.
Je voulais ajouter un point en fait. Je voulais ajouter un point sur l'ambiance qui est renforcée par le décor en fait, qui est assez incroyable. On voit pas beaucoup de décors différents, ça se passe dans un petit village, on voit souvent une ou deux maisons, une cabane dans la forêt et la forêt.
Les montagnes.
Et les montagnes. Et au fur et à mesure en fait, ça devient de plus en plus oppressant, rien que par la lumière et par l'omniprésence de la forêt. C'est assez incroyable en fait d'avoir réussi à commencer un film de façon assez ouverte visuellement dans le décor et le renfermer de plus en plus pour augmenter le crescendo en fait de la tension et pour arriver à un final juste
t'as vraiment l'impression d'être pris au piège du cauchemar en fait.
on est pris au piège en fait pendant on suit exactement la même trajectoire que le personnage principal qui d'ailleurs est un acteur qui joue d'habitude des seconds rôles en fait qui a été pris comme personnage principal et qui n'est pas éblouissant
on dirait Fight Club parce que vous nous êtes en train de nous rappeler.
Mais alors par contre
au niveau de l'ambiance du cauchemar non,
par contre ça va de plus en plus dans le cauchemar enfin pour moi c'est avant tout une comédie et
le cauchemar tu t'es endormi dans la deuxième partie ou quoi
j'ai attendu le cauchemar
tu t'es endormi au bout d'une heure
c'est pas possible
non j'ai pensé surtout enfin des films de série B ou Z de l'italienne.
Mais t'as vu combien de bières, t'as mangé combien de McDo avant, qu'est-ce qui s'est passé, c'est complètement ridicule.
C'est juste que c'est enfin
non, on n'a pas parlé,
ou
mais
ou bien tu fais un film effectivement genre de Branded et tout ça,
non,
ou bien
ou bien tu vas voir un film c'est pas un
mais sur le grotesque, pas sur le gore, sur le grotesque.
Non, mais ça n'a rien à voir non plus.
Si, sur le grotesque, c'est du grotesque, du début jusqu'à la fin, le grotesque.
Non, non.
Et on va juste parler. J'ai juste parlé.
Je crois que Gaël n'a pas été au festival.
Non, non, mais on n'a pas vu le film en fait. Il est en train de nous parler de Malout depuis tout à l'heure.
Gaël, et Malout, effectivement, c'est.
Donc, on n'en a pas parlé, mais je vais spoiler une scène quand même. Mais c'est pas une scène.
Il peut pas s'en empêcher, c'est incroyable.
La scène de fin.
C'est la scène de.
Quand le gamin se suicide.
Non, 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 c'est la meilleure.
Non, mais. Je dis pas sa place dans l'histoire, je dis qu'il y a une scène d'exorcisme absolument incroyable dans le film.
C'est dur ce que tu fais.
Ça donne envie. Voilà.
Du coup, ça donne envie.
Ça veut dire qu'il est possédé déjà.
Il y a la plus grande scène du cinéma de ce que vous verrez cette année.
Pas vu le film.
Et qui vont, qui ont envie de le voir.
Je plus sois. Plus sois.
Oui.
Je plus sois.
Je plus sois, ça marche. Elle est extraordinaire cette scène.
Gaël, du montage, la musique, tu nous parlais effectivement de série B, de films de genre.
De Malout.
De films de genre italien. Elvire, je crois que tu as très envie de nous parler de l'autre film coréen qui était présent.
Train to Busan.
Film
que j'ai loupé.
Donc un film dans un train avec des zombies qui s'appelle Train to Busan
de
Yong Sang-ho.
Tu as réussi à le lire pour la première fois en 15 jours.
C'est devant lui.
Le nom du réalisateur.
Règlement de compte aujourd'hui.
Qui était hors compétition,
en séance
sélection officielle, sans demi-minute.
Sans demi-minute. Ouais.
Des zombies dans un train coréen.
Donc alors, Yong Sang-ho, pour resituer un petit peu, en fait, c'est un cinéaste d'animation qui avait réalisé The King of Pigs et The Fake.
Chef d'œuvre.
Lequel?
Tout à fait.
Les deux sont magnifiques.
J'ai pas vu le deuxième en fait, mais.
Les deux sont.
Ouais, non,
non mais il est plombant, t'as envie de te pendre, je suis d'accord,
voilà,
mais il est génial.
C'est une comédie.
C'est une comédie, mais t'as pas vu le grotesque dedans, Gaël? Et donc en fait, il a réalisé aussi Seoul Station, qu'on a malheureusement pas vu en France, qui est passé dans quelques festivals, notamment au BIF.
Et à Annecy actuellement.
Et qui va passer à Annecy, voilà. Train to Busan est donc son premier film en prise de vue réelle qui se déroule le lendemain de Seoul Station. Donc c'est un petit peu gênant quand on n'a pas vu Seoul Station, mais on arrive très bien à comprendre le film. En gros, une épidémie, c'est...
Oui, des zombies, quoi.
C'est, voilà, a envahi la Corée et les gens se transforment en zombies. Et donc, dans Train to Busan, on est infecté. Et dans Train to Busan, on suit donc un père de famille qui accompagne sa fille de Séoul à Busan en prenant le KTX, donc qui est le TGV coréen.
Qui ressemble vraiment au TGV.
Mais parce que ça a été fait, en fait, ça a été aidé. Enfin, la France a aidé la Corée à faire le KTX, donc c'est le train TGV, voilà. C'est la. C'est, non, mais c'est la minute culture.
Le train,
même train. Non,
mais c'est la même chose, c'est les mêmes portes, c'est la même couleur, c'est la même chose.
Donc, il y a une vraie finale,
la Corée sans le Japon et la France.
Sans rien, voilà.
Ah,
c'est ça.
Il faut le dire, c'est un peuple un peu.
Inférieur, on va le dire.
C'est super compliqué ce soir.
On va parler de pub pour les machines.
Est-ce que je peux raconter.
Sur les racismes.
Est-ce que je peux raconter l'histoire?
C'est quoi l'intrigue?
Mais non, mais j'arrive pas en même temps, là. Les deux, les trois.
On va laisser parler.
Donc, le père accompagne sa fille voir sa mère à Busan. Et en train, et ils se rendent compte en fait, quand ils sont en voyage, qu'il y a quelque chose de louche qui se passe à l'extérieur, puisqu'il y a des télévisions en train qui retransmettent les informations de l'extérieur. Des gens qui attaquent d'autres personnes, et surtout ils se rendent compte que dans le train c'est la même chose. Donc ils sont face à des hordes de zombies dans un train, et ils doivent survivre dans un train. Voilà, le scénario de base, il n'y a pas plus à en dire. Visuellement, c'est plutôt. Les hordes de zombies sont plutôt impressionnantes. Avec l'effet de couloir du train, en fait, on voit vraiment une cinquantaine de zombies qui débarquent. C'est efficace, ils sont plutôt bien faits, ils courent très vite. Au contraire du zombie de base, en fait, qui est un peu con et un peu lent.
Ce sont des infectés, c'est pour ça.
Non, mais t'as trop vu 28 jours plus tard,
oui,
il parle pas
ni
d'infectés, ni de zombies.
Non, mais il y a pas. Non, non, attends, Kefren, il n'y a pas de détails.
Il faut te libérer des codes.
Il n'y a pas de détails, en fait.
Oui, mais dans le cinéma, il y a eu une rupture avec 28 jours plus tard, qu'on est passé des zombies aux infectés, c'est pour ça qu'ils peuvent courir plus vite, etc.
Un peu surcoté, si je suis
mon avis. Non, mais si tu veux, mais dans le film, il n'y a pas de détails, en tout cas, là-dessus.
À aucun moment, ils arrêtent le train?
Il l'arrête à une station.
Il y a des zombies sur
en fait, il y en a partout. En fait.
Il l'arrête il l'arrête à une station pendant un petit moment.
Il rien avec les trains qui continuent à avancer comme ça.
Il l'arrête à une station pendant un petit moment, en fait. Mais il y en a partout, à l'intérieur, à l'extérieur, c'est un bordel monstrueux. Il y a une lutte interne qui se déroule en fait, pour savoir qui va réussir à convaincre le conducteur de continuer jusqu'à Poussan. Est-ce qu'ils peuvent continuer jusqu'à Poussan ou est-ce que c'est bloqué?
Et ce film, tu l'as vu, vous l'avez vu en séance de minuit, c'est ça?
Non, on l'a vu le lendemain à 22h, c'était pas minuit.
J'aurais voulu savoir quelle était l'ambiance.
Elle était bonne.
Apparemment, l'ambiance était bonne, toi tu l'as vu. Ah non, tu l'as
non, je l'ai vu après, mais
l'ambiance était bonne.
C'est ce
en fait,
qui a fait que les gens pensaient que c'était un bon film, en fait. Que l'ambiance
et,
était bonne.
Et c'est sympa.
Alors,
c'est très sympa. Sauf que, en fait, il est beaucoup moins bon en prise de vue réelle, le réalisateur. Il y a un côté pathos qui est quasiment insupportable au bout d'un moment. Il y a vraiment des scènes dramatiques où les violons pleurent, mais nous on rigole en fait, malheureusement.
Et très premier degré.
Les violons pleurent et nous on rigole. Et il est très premier degré, il n'y a aucun second degré.
Apparemment c'est pour le fric en fait.
Il a, voilà, en fait on lui a proposé plusieurs fois de faire un film en prise de vue réelle. Et il voulait toucher plus de monde. Donc concrètement, en fait, le message sous-jacent, c'est qu'il voulait se faire
de la thune.
Après, il a produit lui-même le film, donc ça a été. Je suis pas sûr. En termes de production, en fait, il est touché plus d'argent, parce que c'est sa propre boîte qui a produit. Le problème, c'est qu'il veut continuer là-dedans.
En prise de vue réelle. En prise de vue réelle.
En prise de vue réelle, c'est pas une bonne nouvelle, parce qu'il est très 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 bon en animation.
Il fait un film avec des serpents
dans un avion. Il veut faire un thriller de science-fiction.
De manière plus sérieuse, c'est ça.
Il gagne peut-être plus d'argent en prise de vue réelle.
Je pense, oui.
Alors Nicolas,
je vais nuancer quand même, je veux dire, bon, son film est pas très bien, surtout la dernière partie.
Tu nuances vachement.
Non mais,
c'est un peu de la merde.
C'est un peu de la merde, mais il y a quand même des bonnes idées de mise en scène, notamment les premières attaques, où justement il se sert pas mal de la vélocité des infectés, des zombies.
Même l'effet couloir, c'est super impressionnant.
Et c'est très très nerveux en fait, comme mise en scène, ça va très très vite.
Des idées de mise en scène ou des idées de montage?
Des deux. Je pense plus de montage d'ailleurs que de mise en scène. Mais disons, dans les travelling et tout ça, très rapide, il y a quand même une espèce de fluidité qui fait que les premières attaques sont vraiment. Voilà, on se prend les zombies sur la gueule.
Au même temps.
Voilà. Mais le problème, c'est qu'après, ça retombe un peu comme.
Et il y a une sorte de moraline toute molle au fond, en fait, où les gens un peu égoïstes, égocentriques deviennent soudainement super gentils et se préoccupe
ça, c'est la base du film catastrophe, quoi.
Ouais, mais c'est chiant, en fait.
Il y a un personnage assez délicieux de salaud intégral,
il est coréen, c'est le vrai coréen.
C'est plutôt pas mal. Et il y a quand même un sous-texte politique, parce que c'est quand même le réalisateur de The Fake.
Oui, et qu'il a nié, d'ailleurs, en interview, il a nié le sous-texte politique.
Un peu obligé, mais il y a quand même des images où on voit, voilà, Séoul à feu et à sang, et les médias qui disent le gouvernement vous dit que tout va bien, les choses se passent parfaitement. Ça, donc il y a quand même un petit discours sur une
ça,
critique.
C'est du second degré ou c'est du.
Alors c'est du second degré, oui, il y a une petite dénonciation. Alors, et un petit sous-texte.
Il nous a expliqué
politique.
En fait qu'il voulait faire un film de zombies dans lequel les Coréens puissent reconnaître, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de films de zombies coréens. Même si les Coréens voient des films étrangers, il n'y a pas de souci. Donc pour ça, il a mis des petits éléments.
Les Coréens du Sud, tu veux dire enfin,
c'est... Bah oui. Enfin, pas du cinéma nord-coréen jusqu'à présent. Enfin. Voilà. Donc il a voulu mettre des petits éléments. Enfin, quelle question. On peut parler des films de monstres nord-coréens si tu veux, mais ça va durer longtemps.
Ah ouais, c'est pour le gars, ça,
c'est très bien ça.
Et il a voulu rajouter des petits éléments typiquement coréens, et notamment l'élément de la prise de parole gouvernementale lors d'une catastrophe. Lors d'une catastrophe, il nous a dit en gros que les Coréens étaient habitués à entendre ce genre de discours quand c'est la crise, et que c'était juste pour ça qu'ils l'avaient mis, en fait.
On peut le retrouver dans l'interview.
On est un petit peu sceptique.
Mais effectivement, il y a quand même un sous-texte politique qui est un peu présent dans le film.